Chapitre 2. Lorsque Guitard fut rentré chez lui, il s'assit sur un divan et se mit à réfléchir. « On a lu dans mes pensées comme on a voulu. Ces gens se sont moqués de moi. » Il resta un instant perplexe. Puis il se rendit dans sa chambre et, à la lumière électrique, dans une haute glace, il se vit des pieds à la tête. Il fut frappé par sa pâleur, par quelque chose de vieux qui émanait de lui et qui contrastait avec l'activité de son esprit. Mais il ne s'attarda pas davantage à ce spectacle. Il redescendit, se fit servir un verre de Porto, alluma un bon cigare. « Les gens sont bêtes, se dit-il. Dès qu'ils s'imaginent qu'on tient à eux, ils se croient tout permis. Si j'avais su, je n'aurais pas perdu mon temps ainsi. Il y avait des régates cet après-midi, et c'eût été certainement plus drôle que d'écouter ces histoires. » Car Guitard avait ceci des hommes qui vivent seuls, qu'il était cynique dès qu'il se retrouvait chez lui, cynique, soigneux et plein d'habitude. Il mit une robe de chambre et, prenant un journal, le parcourut. Il éprouvait le besoin de reconquérir l'importance que les événements lui avaient fait perdre, et c'était dans l'oubli de ses désirs qu'il y parviendrait. Il sentit son prestige compromis dans l'aventure peinère, et ce fut avec sévérité qu'il s'adressa à son valet de chambre. Il éprouvait un profond soulagement à se retrouver le même qu'avant, à être de nouveau le chef, à ce que tout dépendît de lui. Ce qu'il gardait surtout de sa visite, c'était une profonde humiliation. Des moments semblables sont fréquents dans la vie. Il était parti avec l'idée de parler lui-même de son amour et il rentrait sans avoir ouvert la bouche sur ces sujets. Et, au lieu de se désespérer, seul avec lui-même, il s'en voulait d'avoir agi d'une manière si enfantine, il se le reprochait souvent, trouvant qu'il était indigne d'un homme de sa valeur de sortir aussi ridiculement d'une impasse. N'avait-il pas, au moment de la panique, causée par la baisse du franc, fait preuve d'un flair extraordinaire en ne perdant pas confiance? Et il se revit, donnant des avis, des conseils, les raisons de sa foi, cependant que tous l'écoutaient avec scepticisme. Et aujourd'hui, qui avait eu raison contre tous? Il résolut de montrer à Madame Pennard et à son mari qui il était, combien on s'était trompé sur lui. Il avait été profondément blessé dans son amour-propre et il projeta pour se venger de les oublier. Quelques jours s'écoulèrent sans qu'il donnât signe d'existence au Pennard, laissant passer le temps, avec cette joie que l'on éprouve lorsque chaque heure qui s'écoule vous rend plus grossier envers des gens à qui on veut déplaire. Jusqu'alors, il avait toujours, le lendemain d'une visite, téléphoné au Pennard pour prendre de leurs nouvelles, mais cette fois, il n'en fit rien. Il voulait leur montrer qu'il ne tenait pas à eux, qu'il se moquait pas mal d'eux. Quand il sortait, sa principale préoccupation était de ne pas les rencontrer, et quand, une fois il les aperçut au loin, il fit demi-tour, avec cet à-propos qu'on a, et dont on se réjouit, quand on est certain d'avoir vu le premier. Pourtant, le temps lui semblait long, et il commençait à trouver ridicule de se priver de voir des amis, par seule crainte de rencontrer les Pennard. Comme il ne savait que faire, un après-midi, il décida de rendre visite à Madame Beaufort, une jeune veuve dont la beauté était fort connue. À cet effet, il se fit conduire à Beausoleil. Justement, Madame Beaufort n'aimait pas les Pennard. Elle leur reprochait de se servir de leur relation et de n'avoir d'estime ou d'amitié que pour celles qui pouvaient leur être utiles, ce qui était, à ses yeux, aussi grave qu'un péché. Car, avant d'échouer à Nice, Madame Beaufort avait beaucoup vogué par le monde. Femme d'un diplomate, elle avait séjourné dans toutes les villes d'Europe et elle avait gardé de ses nombreux voyages des habitudes de camping, d'organisation rapide et aussi un certain mépris pour les intrigues, car son mari, fort riche, s'était peu soucié de plaire ou de déplaire. Elle vivait seule, dans une vaste villa surnommée, avant qu'elle l'achetât, Les Palmiers. Ce nom était resté en dépit d'un plus beau que Madame Beaufort gardait en réserve. Elle y recevait souvent des amis étrangers, ainsi que certains indigènes, dont était Guitard. Il la trouvait désirable, mais si, jusqu'alors, il lui avait fait la cour, c'était tellement discrètement qu'il eût été difficile de s'en apercevoir. Elle exerçait sur lui un tel empire, le dominait tellement de toute sa grâce, qu'il eût considéré comme une chance inespérée de réussir de quelque manière que ce fût auprès d'elle. Il se contentait de cette galanterie distinguée qui se manifeste assez pour qu'une personne désireuse de se lier puisse le faire sans danger pour son amour-propre, sans pour cela, au cas contraire, nuire à des relations amicales. Au moment où il fit la connaissance de Madame Beaufort, Guitard se défendit de changer quoi que ce fût à ses manières habituelles. Il s'appliqua simplement à dissimuler ses espérances. Dans les derniers temps, chaque fois qu'il avait rendu visite à Madame Beaufort, tout en se gardant bien de citer seulement le nom de Madame Pennet, il s'était montré plus cordial, plus bon enfant. Aussi, ce jour-là, en retournant à Beausoleil, après une absence d'une dizaine de jours, était-il plus préoccupé de retrouver l'attitude qu'il avait eue du temps qu'il espérait l'amour de Clotilde que de se laisser aller à sa rancœur. D'un caractère intègre, il avait horreur qu'on pût deviner les mobiles de ses actions et il craignait, il ne savait trop pourquoi, que Madame Beaufort n'eût été mise au courant de ce qui s'était passé et que, l'observant sans qu'il s'en doutât, elle ne pensa qu'il se rabattait sur elle parce qu'il avait échoué ailleurs. « Comment allez-vous, cher ami ? » dit-il dès qu'il fut introduit auprès d'elle. « Très bien, d'une manière excellente. Mais vous-même, comment se fait-il que depuis si longtemps vous n'ayez pas songé à venir jusqu'ici ? Vous avez eu tort. Ces jours-ci, j'ai reçu la visite d'une jeune femme d'une délicate beauté qui, j'en suis sûr, vous aurait plu au-delà de toute expression. » Guitard ne sourcilla pas. Il avait toujours eu peur de donner en spectacle sa déception. De même qu'il est humain de sourire lorsqu'on s'est fait mal, de même on cache sa déception comme on cache tout ce qui vous amoindrit. Guitard se sentait embarrassé. Il était convaincu que Madame Beaufort avait rencontré les Pennet et il redoutait que ceux-ci n'eussent parlé de lui en termes désobligeants. Comme lorsqu'on rentre de voyage, il appréhendait une foule de choses et son principal désir était de renouer rapidement, de s'assurer que rien n'était changé, d'apprendre ce qu'on avait pu dire de lui, de rectifier aussitôt les erreurs, afin qu'au lieu d'approuver ses ennemis, son interlocutrice partageât entièrement, du moins apparemment, son point de vue. Or, au lieu de cela, il apprenait qu'une jeune femme était venue et, à sa peur instinctive d'un fait nouveau, succéda ce sentiment amer que l'on éprouve quand on passe à côté du bonheur. Cette jeune femme, continua Madame Beaufort, est tellement jolie que M. Hugues Morin, que vous connaissez, en est tombé amoureux sur le champ. Ce nom de M. Morin, dans la bouche de Madame Beaufort, causa une impression étrange sur Guitard. Elle avait revêtu ce nom bien français d'une couche d'ironie qui échappa à Guitard et qui lui parut, au contraire, de l'affectation. D'ailleurs, continua Madame Beaufort, vous allez la voir tout à l'heure pour le thé, ainsi, naturellement, que M. Morin, qui ne manquera certainement pas de venir. D'un seul coup, Guitard conçut une profonde antipathie pour ce M. Morin, qu'il connaissait pour l'avoir entrevu une ou deux fois chez des amis, et qui, jusqu'alors, lui avait semblé le plus quelconque des hommes. Un des sentiments les plus désagréables qui soient, celui de la profusion s'offrant à soi, aveuglait Guitard. Il ne savait plus où porter son attention. Il était sollicité de tous côtés. En même temps qu'il éprouvait le désir de rester le même vis-à-vis de Madame Beaufort, il tremblait de voir cette jeune femme et il souffrait que Morin lui devançait, car, en homme peu heureux en amour, il croyait que l'important était d'arriver le premier. Jeune homme, sa grande tristesse n'était-elle pas venue de la difficulté de deviner le moment où une femme décidait de prendre un amant ? D'un seul coup, ses préoccupations s'envolèrent. Pour retrouver son calme, il n'eut plus qu'une pensée, changer la conversation. Il désirait de toutes ses forces que cette jeune femme, qu'il eût souhaité rencontrer il y a seulement une semaine, ne vînt pas. Lorsqu'il se trouvait avec un ami, la perspective de l'arrivée d'un tiers, fût-il le mieux fait pour s'entendre avec lui, le rendait presque toujours inquiet. « Cher ami, je n'ai pas été très bien portant, et malgré tout mon désir, je n'ai pu venir vous voir. »« Vous allez mieux, j'espère, à présent. Moi non plus, je n'ai pas été très bien. Je suis tombée et je me suis tordu le pied. Surtout, cher ami, ne baissez pas les yeux. Je suis tellement honteuse d'avoir une cheville plus grosse que l'autre. » Galamment, Guitare détourna la tête. Il se surveillait, mais on découvrait sur son visage l'expression fausse des gens qui savent et qui ne veulent pas le laisser paraître. De caractère renfermé, il attachait une importance énorme à tous ses travers, à toutes ses expressions, à tous ses gestes. « Mais je disais cela pour rire, » continua Madame Beaufort. « Vous pouvez regarder. À mon âge, on n'est plus coquette. » Guitare baissa les yeux avec pudeur et, les relevant, bien qu'il n'eût rien vu, il dit « C'est insignifiant. » Il voulait plaire à son hôtesse. Il voulait retrouver auprès d'elle sa désinvolture de jadis, mais quoi qu'il fît, il sentait qu'il l'avait perdue. Et il lui apparut brusquement que ce qui causait cette perte, c'était moins ce qui s'était passé entre-temps chez Madame Beaufort que ce qui s'était passé en lui. Il comprit que c'était son espoir insensé de devenir l'amant de Clotilde qui le gênait à ce point. Il avait le sentiment qu'il s'était couvert de ridicule et que tout le monde le savait déjà. Il se sentait, vis-à-vis de Madame Beaufort, comme en faute. Il ne put tenir plus longtemps. Il voulait en avoir le cœur net. Il demanda « Cher ami, vous avez peut-être vu les Pennet. Je suis si peu sorti ces temps-ci que je ne sais vraiment plus ce qu'ils deviennent. » Il appréhendait ce qu'allait dire Madame Beaufort et ce fut avec une attention subite qu'il guetta la réponse sur ses lèvres. « Pennet ? » Oui, cher ami, les Pennet. Mais je ne sais pas à qui vous faites allusion. Voyons, cher ami, les Pennet, monsieur et madame Pennet. Ah oui, je sais, que j'ai peu de mémoire pour les noms propres. Mais naturellement, je les ai rencontrés il y a 2 jours au thé. D'après ce que j'ai entendu dire, il paraît d'ailleurs que vous leur avez rendu une visite mémorable, historique, que sais-je. « Comment ?» demanda Guitard dont le visage avait pâli. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois me souvenir que vous leur avez fait beaucoup de peine. Je vous dis simplement ce que l'on m'a répété. Vous n'ignorez pas le peu de cas que je fais de tous ces cancans. S'il fallait leur accorder quelque attention, on n'aurait vraiment pas le temps de se consacrer à ces occupations. » Guitard ne cherchait plus qu'à discerner la part de sincérité qu'il y avait dans cette réponse. Il avait l'impression que Madame Beaufort en savait beaucoup plus long qu'elle ne le prétendait. Il rougissait pourtant à la pensée qu'il pouvait lui paraître mal élevé de l'avoir courtisée, cependant qu'il s'efforçait maladroitement de conquérir Clotilde. La gentillesse de Madame Beaufort le rassura finalement quant à cette seconde supposition. Elle semblait avoir toujours ignoré le sentiment qu'elle lui avait inspiré. Elle ne jouait certainement pas la comédie. N'avait-elle pas regretté qu'il n'eût pas rencontré chez elle la si jolie femme ? Mais je ne leur ai fait aucune peine, fit Guitard. Il brûlait de régler ce malentendu, de tout raconter par le menu, mais il lui apparaissait qu'il ne devait pas le faire, que ce serait tromper la confiance que M. Pennet avait placée en lui. La confiance, se dit-il, comme si ce mot, en le répétant, prenait une signification plus pleine. La confiance. Mais il n'en avait aucune en moi. Tout cela était machiné. Ils ont voulu me tourner en ridicule. Eh bien, nous verrons. Ils m'ont pris pour un enfant. Eh bien, pourquoi ne le serais-je pas, cet enfant? Tout ce que M. Pennet m'a raconté est vrai, je le crois. Enfin, j'ai cru comprendre, continua Madame Beaufort, que vous avez eu une attitude assez inattendue. Vous l'auriez eu à ma place, cher ami. Quand un homme vous demande de faire l'intermédiaire entre lui et une femme qu'il aime, et qu'ensuite vous apprenez par sa propre femme que ce que vous pensiez être un secret n'en était pas un, il y a de quoi être surpris. Il vous a demandé une chose pareille? Certainement. Mais quelle relation aviez-vous donc ensemble? À cette question, Guitard se sentit embarrassé. Des relations de gens qui se connaissent depuis peu. « C'est bien étrange, en effet. » Il est toujours désagréable de dire du mal de son prochain, fit sentencieusement Guitard. Mais la vérité est que ce sont des gens sans morale. On a l'impression que la femme favorise les amours du mari, que celui-ci favorise celle de sa femme, et que... Tenez, comme il se chamaillait honteusement devant moi, lui, M. Penner, a eu cette parole, dite devant sa femme sur un ton naïf. Je voulais simplement savoir ce qu'est devenue la petite Andrée. Si tu l'avais voulu, je lui aurais demandé de la même manière de prendre des renseignements sur ton ami Krupp. Lui, c'était moi. Je vous assure que c'est inconcevable. Et ensuite, naturellement, ils ont trouvé drôle que je ne veuille pas me prêter à une telle comédie. Ce n'est pas tout à fait ce qu'ils m'ont raconté, dit Madame Beaufort. Il paraît que M. Penner, comme beaucoup d'hommes, avait une liaison en dehors de son ménage, liaison d'ailleurs qu'il n'avait pas cachée à sa femme. Madame Penner est très bonne, et quand elle l'a apprise, elle a simplement demandé à son mari de quitter la colonie, ce que ce dernier a accepté de faire. Elle a très bien compris également que son mari veuille avoir des nouvelles de cette femme, du moment qu'il ne lui cachait rien. Or, il paraît, toujours d'après ce qu'on m'a raconté, que, fort de la confidence de M. Penner, vous avez voulu vous en servir pour conquérir Clotilde, à qui d'ailleurs, et tout le monde l'a remarqué, vous faisiez la cour depuis je ne sais combien de temps. « Ce sont d'infâmes racontars !» s'écria Guitard hors de lui. « Je n'ai jamais fait la cour à Clotilde. C'est un bruit qu'elle a répandu pour me ridiculiser. Croyez-vous que si j'étais amoureux d'elle, je puisse l'être d'une autre ? Mon cœur est libre !» Ce fut à ce moment que la jeune femme dont Madame Beaufort avait vanté la beauté fit irruption dans le salon. « Comment allez-vous, madame ? » dit-elle tout de suite en se dirigeant avec décision vers l'hôtesse. Elle souriait avec une grâce extraordinaire et Guitard eut l'impression qu'elle était heureuse d'avoir, en cette ville étrangère, une amie. « Je vous présente, » dit Madame Beaufort, « Monsieur Guitard. » Puis, se tournant vers ce dernier, elle poursuivit « Madame Thierbach. »« Mais j'ai beaucoup entendu parler de vous, » dit Guitard avec joie. « Votre mari connaît très bien une de mes grandes amies, Madame Albermal. Vous la connaissez sans doute également. » « Mais il me semble, en effet, avoir entendu le nom de Madame Albermal. Il m'est familier. »« C'est un hasard assez extraordinaire, » dit Madame Beaufort. Brigitte Thierbach était la femme d'un médecin allemand. Celui-ci l'avait envoyée à Nice à cause de sa santé et la seule lettre d'introduction qu'il avait pu lui donner avait été pour Madame Beaufort. La jeune femme habitait, depuis une semaine déjà, une sorte de clinique-hôtel comme il y en a tant dans le Midi. Après que Madame Beaufort lui eut présenté Guitard, elle manifesta une certaine timidité. Il était ébloui par sa beauté, mais il n'osait le laisser voir, de peur qu'il ne semblât étrange, qu'il tombât amoureux de toutes les femmes. Pourtant, comme Madame Beaufort paraissait avoir oublié la réputation de notre héros, il pensa qu'il avait bien tort d'avoir de tels scrupules. Et, pour la première fois, il sourit à la jeune femme. Mais celle-ci détourna la tête et presque aussitôt, elle demanda à son hôtesse des nouvelles de Morin. « Il doit venir tout à l'heure. J'espère que vous êtes contente, » répondit cette dernière. La joie qui se peignit sur les traits de Brigitte fit de la peine à Guitard. Une haine sourde l'envahit. Ce Morin, qui lui avait fait jusqu'alors l'impression d'un belâtre et dont il avait été jaloux, serait-il donc toujours sur son chemin ? Morin n'avait en réalité rien de bien redoutable et c'était sans doute ce qui expliquait que Madame Beaufort l'eût encouragé à courtiser Brigitte. C'était un homme d'une quarantaine d'années qui aimait la fréquentation des femmes et qui était incapable d'avoir des intentions blâmables. Il aimait à rendre service. La pensée de tirer quelque profit de sa complaisance ne lui venait même pas à l'esprit. La dernière fois qu'il avait rencontré la jeune femme, il lui avait raconté une foule d'histoires sur la France, si bien qu'elle s'était profondément amusée en sa compagnie. Ainsi apparaissait cet homme aux yeux de Madame Beaufort. Mais notre héros le voyait sous un tout autre jour. Il avait deviné en lui un rival, et il ne se trompait certainement pas, car cet homme ne pouvait le supporter. Démasqué, ce dernier, en retour, le détestait. Depuis qu'il était en présence de la jeune femme, Guitare sentait son animosité croître à l'égard de M. Morin. Elle n'était pas causée par de la jalousie uniquement, mais aussi par le fait qu'un homme sans attrait pût aspirer au même bonheur que lui. En outre, il ne s'expliquait pas que Brigitte pût parler de Morin comme elle le faisait. De même qu'il avait plaint Clotilde, de même il voulait, cette fois, mettre en garde la jeune femme contre la tentation. À ce moment, Madame Beaufort dit « Monsieur Guitard, que je viens de vous présenter, est un ami de Monsieur et Madame Penner que vous devez vous rappeler avoir rencontré chez moi la dernière fois. N'est-ce pas, cher ami ?» La jeune femme sourit en disant « Vraiment ?» Comme si cette amitié étant une faveur, ajoutait de l'intérêt à notre héros. Mais lui, il demeura de pierre, apparemment, car au fond de lui-même, sous ses dehors impassibles, il venait de lui apparaître que dans le « N'est-ce pas, cher ami ?» il y avait eu une pointe d'ironie. Mais très sensible, ou du moins croyant l'être, Guitard avait pour principe de passer sur toutes ses impressions fugaces, de les considérer avec le même mépris que toutes les pensées saugrenues qui traversaient son esprit, et de se composer un aspect sévère, insensible, droit et pur, ce qui n'allait pas sans une certaine étrangeté, car si bien s'y prenait-il pour masquer ses petites blessures d'amour-propre, il n'en restait pas moins quelque chose sur son visage. « Nous avons parlé de vous, » reprit Madame Beaufort avant de s'adresser à Madame Thiernac. « Et vous, Brigitte, vous ne vous doutiez pas que vous rencontreriez monsieur ?» À propos des Pénins, j'ai oublié de vous dire, cher ami, qu'ils m'ont fait part d'un événement d'importance. Ils sont invités au gala de la semaine prochaine. Vous n'avez certainement pas reçu d'invitation, ni moi non plus. Il faut, n'est-ce pas, faire officiellement partie de la haute société étrangère, comme ces braves Bordelais. En effet, je n'ai rien reçu, répondit Guitard. Ne parlez pas trop vite, la direction de notre grand hôtel n'oublie personne, pas même vous. Brigitte, M. Morin a été invité. Guitard était pâle. Il avait le sentiment de passer pour un personnage sans importance aux yeux de Madame Beaufort, et la réticence qu'elle faisait, quant à elle-même, ne le rendait pas dupe. Parce qu'elle prétendait n'être pas invitée, elle trouvait tout normal qu'il ne le fût pas également. Cela l'humiliait vis-à-vis de Brigitte, à qui il eût voulu faire impression comme Morin. Car il était de ces hommes qui sont fiers d'avantages dont personne n'a cure. En effet, que cela pouvait-il faire à cette jeune femme que Guitard fût ou pas invité? À ce moment, M. Morin pénétra à son tour dans le salon. Il s'avança la main tendue vers Madame Beaufort, et au moment où elle lui donna la sienne, au lieu de la serrer, il la caressa onctueusement. « Comment allez-vous, cher ami, et votre charmante cheville ?» Puis, se tournant vers Brigitte, « Eh bien, madame, vous habituez-vous à notre beau pays? Avez-vous visité, comme je vous l'ai conseillé, le musée océanographique? N'est-ce pas que c'est une merveille? Après vous avoir quitté, j'ai regretté de ne pas vous y avoir conduit moi-même. » Je connais personnellement le prince qui se serait fait une joie de nous montrer lui-même toutes les monstrueuses beautés qu'il a rapportées de ses voyages. Puis, apercevant Guitard, « Monsieur est certainement de mon avis. » Guitard hocha la tête en signe d'acquiescement, mais il songeait à ces mots prononcés par Morin, « J'ai regretté de ne vous avoir pas fixé de rendez-vous. » Et il pensait, « C'est une amorce. » Il ne veut pas effrayer Madame Thiernac en sortant tout de suite avec elle. Il est trop malin. Grâce à cela, il va pouvoir tout à l'heure ne plus avoir à regretter un pareil oubli. Et ce fut avec une joie profonde qu'il vit la jeune femme ne point attacher d'importance à ses regrets. Pourtant, afin de ne pas avoir l'air jaloux ni fâché, Guitard se mit à parler. « Mais Madame restera sans doute assez longtemps dans notre pays pour avoir l'occasion d'y retourner. » « Je n'y ai pas encore été. » Alors, coupant la parole à tout le monde, Morin reprit « Eh bien, que cette paresse vous soit salutaire, madame, nous irons demain tous les deux. » Les deux hommes qui, si longtemps, avaient courtisé Madame Beaufort, ne se souciaient plus d'elle. Celle-ci, d'ailleurs, ne semblait pas s'en émouvoir. L'éclipse que lui faisait subir bien involontairement Madame Thiernach la laissait indifférente. Elle y voyait, au contraire, une confirmation de son autorité, car elle savait bien qu'il eût suffi d'un mot pour que tout cela cessât. Pourtant, cette indifférence qu'elle témoignait aux deux hommes n'était réelle qu'à l'endroit de Morin. Son attitude, à lui, était nette. Elle l'avait présenté à la jeune femme en l'encourageant à lui faire la cour, en lui affirmant que Brigitte était ce qu'il lui fallait. Elle s'était amusée à bâtir toute cette histoire pour se distraire et elle se sentait encore toute puissante. Mais, en ce qui concernait Guita, il en allait autrement. Elle avait commencé par trouver étrange son silence de plusieurs jours. D'autre part, les racontars des Pénères lui avaient ouvert les yeux et bien qu'elle n'eût pour lui le moindre penchant, elle trouvait singulier de sa part de l'avoir courtisé en même temps qu'il avait tenté de séduire Madame Pénère. Tout cela l'avait déjà mal disposée à son égard. Mais ce qui avait fait déborder la coupe, c'était que, sans le moindre encouragement de sa part, alors qu'elle avait laissé entendre que Brigitte aimait la compagnie de Morin, il eut la morgue, après le ridicule dont il venait de se couvrir, de recommencer, feignant ainsi de croire que personne ne remarquait son manège. Pendant qu'elle réfléchissait ainsi, Guitard, qui ne se doutait de rien, continuait à rivaliser avec ce Morin qu'il détestait si visiblement que tout le monde en était gêné. Comme il parlait avec trop d'ardeur à Madame Thiernach, Madame Beaufort lui dit « Mais vous allez rendre jalouse Madame Pénère si vous continuez. » Puis, se tournant vers Brigitte, « Vous souvenez-vous de Madame Pénère? N'est-ce pas qu'elle est délicieusement jolie ?» Car Madame Beaufort, qui avait été si réservée au début, s'était enhardie à mesure que ses invités s'étaient fait plus nombreux. Sous le coup, Guitard n'eut aucune réaction. Jusqu'à présent, il avait cru que rien n'avait été remarqué, mais à cette attaque, il eut nettement l'impression, non pas qu'on avait lu dans son âme, mais qu'on était jaloux de lui. Il est des hommes qui ne peuvent croire que leurs petits côtés sont découverts. Il vit donc dans l'attaque de Madame Beaufort un peu de dépit qui ne s'occupa pas davantage d'elle et en fut flatté. Hugues Morin, lui, en homme qui respecte les règles du jeu, s'était retiré de la bataille, non sans montrer à son rival le profond mépris qu'il avait pour un aussi mauvais joueur. Et Guitard, fier, enivré de ce qui lui semblait être un succès, ne comprenait pas qu'il pataugeait lamentablement. Aussi, la parole de Madame Beaufort, en le ramenant à la réalité, n'avait-elle fait que l'exciter davantage, comme si, en lui jetant à la figure le nom de Madame Pénère, on avait voulu lui nuire auprès de la jeune Allemande. Il n'avait pas compris que ce qu'on lui reprochait surtout, c'était de vouloir séduire toutes les femmes. Mais Madame Thiernach, qui voulait plaire innocemment à tout le monde, comme tout vrai nouveau venu, en voyant la gêne que causait l'intérêt qu'elle avait cru bon de voir porter à Guita, battit en retraite. En aparté, Madame Beaufort dit à Morin « Quel drôle de personnage! Comme on connaît peu les gens! Il suffit d'une fois pour qu'il nous soit révélé !» Morin répondit par un geste indulgent, le geste que l'on a quand on a sa conscience contre soi, en même temps que ses amis pour soi. Guita, malgré les attaques dont il était l'objet, demeurait aussi hardi, si bien qu'il ne s'apercevait de rien, et mettait sur le compte de la discrétion l'attitude de Madame Beaufort et sur celle du dépit la retraite de Morin. En tête à tête avec Madame Thiernach, qui jetait des regards désespérés vers l'hôtesse et Morin, il sentait son cœur s'illuminer. Tout en parlant avec ardeur, il se voyait, au bras de cette jolie femme, rencontrant Clotilde, s'arrêtant pour échanger quelques paroles, puis repartant aussi fièrement. « Enfin, cher ami, dit brusquement Madame Beaufort excédée, vous n'allez tout de même pas continuer à accaparer cette pauvre Brigitte ?» Guitard eut un haut-le-corps. Il vit, debout, Morin qui le regardait, et déjà levé, sa partenaire qui avait profité de cette interruption pour rompre. Une seconde, il eut l'impression que tout se brisait autour de lui. Puis, se levant à son tour, il dit « Je racontais à madame que certainement j'avais une amie à Paris qui avait été en relation avec son mari, une amie que j'aime beaucoup et que vous connaissez peut-être aussi de réputation. Il s'agit de Winnie Albernarle, qui est douée d'un véritable talent de peintre. C'est une Américaine de mes amies qui adore la France et surtout la France intellectuelle, celle que vous aimez aussi, je crois, cher ami. » Pendant que Guitard parlait, Morin tapotait sur une petite table et Madame Beaufort l'écoutait, comme on écoute la fin d'une histoire ennuyeuse. Puis elle dit « Mais vous avez dit, je crois également, à Madame Penner qu'elle connaissait cette dame. Cette dernière doit être très répandue, si je comprends bien. » Les artistes, poursuivit notre héros, sont appelés à fréquenter les mondes les plus divers. Particulièrement quand ils ont du talent, crut heureux d'ajouter Morin, qui, bien qu'il n'eût jamais ouvert un livre, ni regardé un tableau, ni écouté un concert, témoignait une haine profonde aux artistes sans talent. Guitard vivait dans un rêve. Ses perpétuelles allusions à Madame Penner, il ne voyait pas leur raison d'être. En toute bonne foi, il supposait qu'elle revenait ainsi continuellement dans la conversation parce qu'elle était l'amie de tout le monde. Il y eut bien une faible voix chuchotant dans son cerveau qui lui signala qu'il avait tenu les mêmes propos à deux femmes différentes, mais il ne l'écouta pas comme si cela n'avait absolument aucune importance. N'arrivait-il pas, tous les hommes, de dire à plusieurs femmes la même chose ? Quant à Morin, qu'il avait tellement haï, il se sentait maintenant très bien disposé à son égard. L'attitude réservée, effacée de ce dernier, lui avait plu et l'avait désarmé. Quant à Madame Beaufort, il se sentait un peu fautif vis-à-vis d'elle, mais comme elle acceptait bien la chose, il prit l'attitude de celui que les événements obligent à délaisser un ami. La fin de l'après-midi était délicieuse. Par les grandes baies ouvertes sur la mer, entraient les effluves tièdes et parfumées, de feuillages surchauffés, de fleurs épanouies. La grande chaleur commençait à tomber, et déjà, au bord du ciel, un azur plus foncé montait, cependant qu'au zénith, l'immensité était encore sans teinte, comme le sont à la longue les choses sur lesquelles le soleil, chaque jour, répand sa lumière. Guitard, pour demeurer sur ce qu'il considérait comme un triomphe, songea à prendre congé. Il ne remarquait même pas que l'hostilité de Madame Beaufort et de Morin avait gagné la belle Madame Thiérbach, qui devait être de ces femmes sans discernement, qui, par peur de faire fausse route, s'appuient toujours sur ceux qui leur témoignent de l'amitié, cela bien qu'elles aient horreur de faire de la peine. Elle ne voulait pas être désagréable avec Guitard. Elle ne s'expliquait pas pourquoi on le moquait, et en même temps, ne voulant surtout pas déplaire à son hôtesse, elle n'osait montrer sa sympathie. Finalement, après avoir pris congé, Guitard marcha d'un bon pas le long de la promenade, mais sans prêter la moindre attention à la beauté de cette fin d'après-midi, ce qui était pour lui le comble du bonheur, car il avait été tellement solitaire et désœuvré que des années entières, il les avait passées à jouir du temps, à courir après des souvenirs, si bien que c'était un bonheur pour lui d'être enfin assez occupé pour n'avoir pas à prendre garde au temps. Il marchait donc en réfléchissant profondément à ce qui venait de lui arriver. Pas une seconde, il ne lui apparaissait qu'il avait été ridicule et impoli. Il songeait au gala du Grand Hôtel où il allait rencontrer Brigitte, si toutefois il y était invité. Il songeait au moyen de revoir Brigitte ensuite, et comme il ne voulait pas avoir recours à Madame Beaufort, dont il devinait l'hostilité, comme il voulait faire les choses seul, sans dépendre de ceux qu'il avait présentés, il résolut d'écrire à Madame Albernarle pour la prier de venir. Par elle, il approcherait plus facilement la belle Madame Thiérbach. Mais en y réfléchissant davantage, il se sentit pris d'un scrupule. Ne s'était-il pas conduit, des années durant, avec dureté, vis-à-vis de cette femme qu'il adorait en silence, dont le rêve était qu'il l'épousât? Mais elle était laide, ou tout du moins, il la trouvait ainsi. N'était-ce pas de mauvais goût que de demander à une femme amoureuse, fidèle dans sa passion au point d'avoir souffert toute sa vie en silence, n'était-ce pas de mauvais goût de lui demander de venir? Cela éveillerait peut-être en elle un espoir. Et quelle déception lorsqu'elle verrait que sa présence n'avait été désirée que dans le but de faciliter une autre idylle. Guitard écouta durant quelques instants ses scrupules. Il lui apparaissait que c'était vraiment laid de tromper ainsi une femme amoureuse, de se servir de cet amour pour en faciliter un autre. Mais c'était dans son caractère de ne jamais s'arrêter longtemps à de telles considérations. Comme chez beaucoup d'êtres solitaires, s'était développé en lui le sentiment qu'on l'avait tenu à l'écart et que, par conséquent, il n'avait pas à faire preuve de délicatesse. D'autre part, qu'est-ce qui lui prouvait que Madame Albermarle avait toujours pour lui les mêmes sentiments ? Ne lui avait-elle pas dit que, même s'il se mariait avec elle, elle ne voudrait jamais qu'il changeât en quoi que ce fût par désir de lui plaire ? Ne lui avait-elle pas dit également qu'elle ne savait pas ce qu'était la jalousie ? Il pouvait donc la faire venir en toute tranquillité, d'autant plus qu'il pouvait très bien s'arranger pour qu'elle ne s'aperçût de rien. Et puis, même si elle s'apercevait de quelque chose, l'essentiel n'était-il pas qu'elle ne se rendît pas compte de l'exacte raison de sa venue ? Et cela, il savait bien qu'elle était trop éprise d'idéal pour ne jamais même le soupçonner. L'essentiel était donc qu'elle pensât qu'il l'avait fait venir par réel désir de la voir, ce qui lui semblait très facile à accréditer une fois qu'elle serait là. Et en poussant plus loin ses réflexions, il ressentit une certaine fierté de se montrer aux yeux d'une femme qu'il aimait, aimée par une jeune femme si belle. Telles étaient les réflexions que fit Guitard sur le chemin du retour, cependant qu'une foule élégante l'entourait sous un ciel d'une pureté extraordinaire, avec au loin la vision de la mer, cependant encore que venaient à ses oreilles les orchestres d'été échelonnés sur sa route. En rentrant chez lui, il remarqua une lettre sur la console du vestibule. C'était une invitation au gala du Grand Hôtel. Ceci, ajouté à la décision qu'il venait de prendre d'écrire à Madame Albermarle, à la joie qu'il avait de connaître Madame Thierbach, à celle de se sentir occupée, fit qu'il poussa un soupir de contentement profond. Il avait l'impression délicieuse pour lui, et nouvelle, d'être le centre d'un petit monde, d'avoir des occupations, et l'impression d'ennui des journées vides s'envola. Mais tout à coup, au milieu de sa joie, un point noir lui apparut. Il y avait 2 ans, dans une crise de neurasthénie, il avait également écrit à Madame Albermarle, mais cette fois, il avait invité à venir prendre un peu de vacances chez lui. Elle avait accepté avec joie, et une quinzaine durant, elle avait occupé une chambre de sa villa. Or, cette fois, il voulait bien que Madame Albermarle vînt à Nice, mais il ne voulait pas qu'elle descendît chez lui, de peur que Brigitte ne fût non point jalouse, mais qu'elle n'eût des soupçons et que cela ne nuisît à ses relations avec elle. Pendant quelques instants, Guitard vécut dans les transes. Tout son bonheur, toutes ses distractions s'envolaient. Il se voyait de nouveau seul, sans amour. Mais peu à peu, il se ressaisit. Il eût été bien bête, pour une petite question de cet ordre, de se faire du mauvais sang. Il n'avait qu'à faire semblant d'avoir oublié cette invitation de jadis. Madame Albermarle ne s'en formaliserait point. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouvait qu'elle se la rappelait, qu'elle attachait de l'importance à un détail semblable ? À mesure qu'il raisonnait ainsi, il sentait sa joie renaître et ses scrupules, encore une fois, s'envoler. C'était justement un trait de son caractère de passer ainsi sur tout, du moment qu'il tirait de son inertie quelque avantage, et de même qu'il n'avait jamais cru qu'on pût le prendre pour un personnage étrange à courtiser toutes les femmes, de même il ne lui venait pas à l'esprit qu'il pût paraître indélicat à ne pas agir une deuxième fois comme il avait agi la première. Il écrivit donc à Madame Albermarle. Ce 7 mars 1930. Chère et grande amie, vous êtes sans doute bien loin de moi à la minute où je vous écris. Mais de quel droit pourrais-je vous en tenir rancune ? N'avons-nous pas toujours été, l'un pour l'autre, mieux que des amis, au sens courant de ce mot, mais des êtres dont les plus fugaces sentiments étaient aussitôt compris par l'un ou l'autre, des êtres au-dessus des habituelles lois de l'amour ? Aussi, quand on a le bonheur de posséder dans le monde un être semblable, vers qui se tournerait-on au moment de solitude, de doute, d'affliction, si ce n'est vers lui ? Nous avons passé trop de belles heures ensemble pour qu'aujourd'hui vous refusiez de m'entendre. Je sais votre passion pour le pays où, depuis des années, je me suis retirée. Je sais que, chaque fois que vous y êtes venu, Chaque fois, vous en avez gardé un inoubliable souvenir. Et je me permets de vous demander, chère et grande amie, si vous ne voudriez pas revivre ces heures délicieuses qui sont mortes. Mais il faut être prudent avec les beaux souvenirs. Il ne faut pas se jeter sur eux, sans quoi, comme la chatoyante couleur des ailes de papillon, ils s'évanouissent. Il faut s'avancer vers eux, ainsi que le chasseur vers l'oiseau craintif. Venez donc, chère et grande amie, mais venez sans bruit, comme une revenante, pour ne rien effaroucher. Venez sur la pointe des pieds, si j'ose cette image. Cachez-vous, et doucement, à travers tout ce que la vie a élaboré entre nous et nos souvenirs, à travers les amis que le hasard met sur nos routes et qu'on ne peut supprimer, à travers les occupations nouvelles, nous retrouverons peut-être une de ces minutes enchantées. Quelle joie ! Quelle fête pour moi ! Mais comme j'ai peur que notre récolte ne soit vaine, comme j'ai peur que des impondérables ne nous écartent de notre précieux passé. J'ai toujours été maladroit dans la vie. Le serais-je encore cette fois ? Chère et grande amie, je vous supplie de diriger ce pieux pèlerinage. Vous, mieux que moi, saurez retrouver ce qui reste de nous-mêmes dans les années écoulées. Je vous attends donc, sans rien espérer, et pourtant en espérant tout. J'attends donc votre présence comme l'assoiffée une eau limpide et bienfaisante. Mais surtout, chère et tendre amie, ne détruisez rien. Lorsqu'il eut terminé cette lettre, Guitard resta un moment songeur. Il revit les promenades qu'il avait faites avec Madame Albert Marle, la fameuse nuit où il lui avait pris la main sans désir, parce qu'il avait été gagné par la sincérité d'un amour profond, la beauté d'un clair de lune sur la mer, absolument silencieuse. Il avait oublié Brigitte, le gala du grand hôtel, ses démêlés avec les Pénères. Malgré lui, il s'était recueilli pour tâcher de dégager la poésie d'un mois de sa vie auquel il n'avait jusqu'alors jamais songé, obéissant à un obscur sentiment qui lui dictait de le faire. Une seconde, il lui apparut bien que sa lettre était tournée de telle façon qu'il était difficile à Madame Albert Marle de descendre chez lui. Mais cela ne valait-il pas mieux ? Et peut-être sortirait-il de ce deuxième séjour quelque chose de nouveau qui ferait que tout serait vrai. Car Guitard n'était pas un comédien. Il s'arrangeait toujours dans ses sentiments pour qu'il y eût une certaine marge lui permettant de se tourner, sans trahir personne, vers ce qu'il y aurait de plus sincère. Il n'avait pas écrit cette lettre sans éprouver d'émotion, mais cela n'empêchait pas que tout y était dit pour que Madame Albert Marle vînt et ne descendît pas chez lui, et aussi pour qu'elle ne fût pas étonnée lorsqu'elle rencontrerait, entière, un visage nouveau. Le gala du grand hôtel consistait en une fête de nuit suivie d'un grand bal. Avant de s'y rendre, Guitard avait questionné son valet de chambre, longuement, afin de savoir si une lettre n'avait pas été égarée. Madame Albert Marle, d'ordinaire si prompte à écrire, n'avait pas encore répondu. C'était un point noir dans la joie de Guitard de revoir Brigitte. Il avait, en effet, projeté de lui dire, au cours de la soirée, qu'une de ses amies allait arriver, et ainsi, il espérait détacher Brigitte de Madame Beaufort, sa seule relation. De guerre lasse, il abandonna ses recherches. Son habit enfilé, il se regarda un instant avant de sortir. Il avait encore fière allure, ce sexagénaire. Une vie exemplaire, l'absence d'excès, une nourriture saine et peu abondante, l'exercice matinal, une surveillance constante de sa personne, tout cela avait contribué à l'amener au seuil de la vieillesse sans la moindre diminution. Il éprouva un sentiment de fierté et, comme il sortait, il rencontra un jeune chauffeur, les yeux cernés, un col cassé et douteux autour du cou, vêtu à bon marché, et il éprouva une joie profonde à se sentir plus jeune que ce serviteur. Le jour tant attendu était donc arrivé. Dans quelques instants, il allait se trouver en présence de la belle Madame Thierbach. Pourtant, en arrivant dans les jardins du grand hôtel, une petite déception l'attendit. À mesure qu'il marchait, il ne trouvait pas un visage de connaissance. Dans son imagination de jeune homme, il s'était vu happé au passage, retenu par le bras, et, au lieu de cela, il avançait au milieu d'un cortège d'inconnus qu'éclairait la lumière pâle de petites ampoules perchées dans les feuillages. Un brouhaha s'élevait de tout ce monde et, première déception, il ne trouvait personne à qui parler. Il n'y a rien de plus désagréable que cette solitude dans les fêtes, alors qu'on a donné l'impression à tous ceux qu'on vient de quitter qu'on allait s'amuser. On pense à ceux que l'on a laissés rapidement pour ne pas être en retard, à ses réflexions dans la voiture qui vous a conduit, au cocher que l'on a quitté avec décision pour s'engouffrer dans le plaisir, à la tristesse qu'ont fait naître en vous les gens que l'on a rencontrés et qui s'ennuyaient, et brusquement, l'on se retrouve comme eux. Guita se fraya un passage jusqu'aux salles de restaurant, transformées pour l'occasion en d'immenses serres où l'on servait des rafraîchissements. Une lumière aveuglante y régnait. Elle apportait sinon le plaisir, du moins l'illusion. Des groupes y parlaient à voix haute. « Je suis venu trop tôt, » pensa Guitard. Dans le fumoir, des hommes devisaient. Un instant, il songea à se mêler à eux, car il aimait encore mieux être perdu dans la foule que de faire partie d'un groupe d'hommes. La fréquentation des hommes n'avait jamais été son fort. Il se sentait auprès d'eux deviné, et ce soir-là, il lui apparaissait qu'il lisait tout sur son visage sa déception. Quand il commença à craindre que l'on ne remarquât qu'il simulait de chercher un ami uniquement pour se donner une contenance, il s'assit à l'écart. Là, il pouvait attendre sans être vu. De là, il pouvait partir, également sans être vu, de manière à laisser croire à Brigitte qu'il venait d'arriver. « Et si elle ne venait pas ? » pensa-t-il brusquement. Cette simple supposition le concerna. Il regarda sa montre. Elle marquait 11 heures. Elle doit arriver d'un moment à l'autre. Dans le bas du parc, il y avait une sorte de longue terrasse surplombant des rochers contre lesquels la mer venait se jeter. Quelques lampadaires fichés dans la balustrade éclairaient cette région où personne n'allait parce que trop éloigné. Guitard s'y rendit. Il erra quelques minutes, puis s'asseyant sur un banc, il se prit à rêver. Dans le lointain, on apercevait la lune. Des rires éclataient de temps en temps dans les bosquets derrière lui, mais il n'y prêtait pas garde, absorbé qu'il était par le désir de revoir Brigitte. Dans son rêve, elle arrivait seule, le cherchait en vain dans la foule des invités, puis, de guerre lasse, elle venait se promener, seule, justement sur cette terrasse. Ah, que n'eût-il donné pour que ce fût vrai ? La soirée était délicieuse, des accords de musique, aux instants où les vagues se retiraient, venaient jusqu'à lui. Une espérance nouvelle illuminait son âme. Tout ce qu'il regrettait dans la vie, tous ses actes bêtes, inconsidérés, tout ce qui lui avait nui, lui semblait bien insignifiant, et ainsi, purifié de son passé, il se sentait devenir un homme fort et nouveau, un homme à qui il ne serait jamais rien arrivé de fâcheux. Il alluma une cigarette et, de n'être plus dans l'obscurité qu'un petit point lumineux, accrut sa plénitude par le contraste que faisait un tel bonheur en prenant si peu de place. Soudain, il entendit des pas sur le gravier et il vit à 20 mètres de lui, sur sa gauche, une femme, les épaules enveloppées d'une longue écharpe qui s'accoudait dans la pose d'un être se croyant seul. Car ce fut sans grâce en se tenant les joues de ses deux mains. La lumière d'un lampadaire l'éclairait à demi. Il espéra un instant que c'était Brigitte, mais elle ne tarda pas à continuer sa route, et à sa démarche, il s'aperçut tout de suite que ce n'était pas elle. Il ne bougea pourtant pas, malgré le désir qu'il avait, de montrer qu'il y avait un homme seul, triste sans doute, plein de cœur, immobile, dans l'ombre, et il laissa passer cette ombre sans se montrer. Il la suivit des yeux. Elle s'arrêta un peu plus loin et de nouveau s'accouda. Cette fois, ce fut plus fort que lui. Il ne put résister au désir de montrer qu'il était là. Il se leva, alla dans la direction de l'inconnu. En cours de route, il s'arrêta une seconde pour allumer une autre cigarette. Lui qui fumait peu, il était de ces êtres qui, la nuit, dans la nervosité du désir, dans le besoin de montrer leur visage, ne cessent d'allumer cigarette sur cigarette. Et, au moment où il passa près d'elle, il sursauta en entendant ces mots. « Je vous ai reconnu. Comment allez-vous, cher ami ?» Ce n'était pas la voix de Brigitte, mais celle de Madame Penner. Guitard balbutia quelques mots. Il se sentait dans une situation fausse, comme s'il eût été surpris en quête d'aventures galantes. « Vous m'avez fait peur, » continua Clotilde Penner, comme s'il eût été caché dans les bosquets pour guetter quelque proie. J'étais venu fumer une cigarette dans le calme de cette belle nuit, crut bon de dire Guitain pour se justifier. Mais il ne chercha pas longtemps à se justifier. Délaissant sa propre personne, il ne tardait jamais à soupçonner chez autrui ce que l'on soupçonnait chez lui. « Vous veniez sans doute contempler la mer, cher ami, » demanda-t-il avec curiosité. « Pas le moins du monde !» Guitard était intrigué et ne savait comment satisfaire sa curiosité. « Puisque le hasard nous met l'un en face de l'autre et nous permet de nous parler sans témoin, pouvez-vous me dire, monsieur Guitard, pourquoi vous nous avez fait ainsi grise mine? Ce n'est vraiment pas gentil. Nous n'avons rien fait, mon mari et moi, du moins me semble-t-il, pour mériter une telle punition. » Mais mon attitude n'a rien eu de particulier, répondit Guitard, qui, lorsqu'il était pris en flagrant délit, se défendait toujours avec la dernière force, au point que cette défense finissait par le transformer et que l'on croyait qu'en effet, il n'avait rien à se reprocher. Madame Penner était vêtue d'une robe excessivement décolletée. Soit par calcul, soit par inadvertance, elle libéra son châle, si bien que, dans la nuit, Guitard aperçut ses épaules resplendissantes et nacrées. Il ne songeait déjà plus à Brigitte, mais à tout le mal qu'il avait pu dire de Clotilde à Madame Beaufort. Il en était confus. Il avait l'impression d'être sans grandeur à côté de cette si belle et si pure créature. Puis il songea que le mal que l'on disait liait celui qu'il répandait à celui qu'il écoutait. Sûr de l'impunité, il ne tarda donc pas à l'oublier, car il ne redoutait que ce qui risquait d'être divulgué. Pour plus de sûreté, il tâcha de se souvenir d'une parole de Madame Beaufort afin d'en user comme d'un otage. Pourtant, il y avait quelque chose qui le gênait plus encore que le souvenir de Brigitte dans cette entrevue. C'était ce sentiment désagréable que l'on éprouve quand, à force de persévérance, on finit par fléchir une femme et que cette dernière condescend enfin à s'occuper de vous, bien que, dans son dos, on ait dit, dans un moment d'humeur, qu'elle n'était que laideur et méchanceté. On redoute alors, par-dessus tout, qu'elle n'apprenne la vérité, tellement grande est la colère de ceux qui cèdent à contre-cœur, après une infinité d'atermoiements, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés, et que Madame Penner put tout saisir, bien que cela fût impossible, planer sur la conversation et rendait Guitard inquiet, quoi qu'il fît pour prendre la chose avec bonne humeur. « Voulez-vous que nous prenions place sur votre banc pour un instant ?» demanda Madame Penner. « Mais certainement, je ne voulais pas proposer parce que je ne pensais pas que vous voudriez. » À peine eut-il prononcé ces mots que Guitard eut le sentiment d'avoir commis une gaffe en laissant entendre qu'il ne pensait pas que Clotilde accepterait, ce qui semblait dire qu'elle faisait plus qu'il ne désirait. Puis, en l'espace d'un éclair, il lui apparut que cette maladresse le servait. Il ne se trompait pas, car Madame Penner lui dit avec un sourire « Grand collégien !» Guitard ne put se défendre d'une certaine fierté à la pensée que ce qui aurait pu être une maladresse était au contraire une habileté. Tous deux s'assirent. Le ciel était constellé. On apercevait au loin un point lumineux sur la mer. À côté des étoiles, il semblait lourd, grossier, éclairant des hommes, des pêcheurs sans doute, à des occupations vulgaires. L'autre jour, après votre départ, dit Madame Penner, je me suis fait des reproches. Je n'ai pas été en effet aussi gentil avec vous que j'aurais dû l'être, que je le suis même avec les indifférents. Elle regarda fixement Guitard dans les yeux. Il est vrai que vous étiez tellement amusant dans votre manière de me montrer l'affection que vous aviez pour moi, que je suis en partie excusable. » Guitard écoutait ces paroles avec un étonnement profond. Ce n'était tout de même pas possible que Clotilde fût sincère après ce qu'elle avait fait. Elle se jouait de lui en ce moment. Il eut un sourire incrédule, destiné à montrer qu'il n'était pas dupe. « Ne souriez pas comme cela, cher ami, vous me faites de la peine. Il faut que vous m'écoutiez. Après, si vous le voulez, vous pourrez encore sourire ironiquement comme vous venez de le faire. »« Vous pourrez encore sourire ironiquement comme vous venez de le faire » fut très agréable à Guitard. Il aimait à s'entendre dire qu'il avait des astuces. Néanmoins, il ne s'expliquait pas l'attitude de Clotilde, ou plutôt, il croyait deviner qu'elle lui tendait un piège, comme la première fois. « Je vous en prie, cher ami, écoutez-moi. Je sais en quoi mon attitude a pu vous paraître bizarre. Il arrive souvent que l'on éprouve le besoin de taquiner les êtres qui vous sont le plus chers, qu'on veuille même les blesser, leur faire de la peine, simplement pour s'assurer qu'on leur ait quelque chose. » Pendant que Clotilde parlait, Guitard songeait à M. Pennaire. Mais ils étaient de connivence, pensait-il. Cela se voyait bien. Toute la scène des aveux a été montée de manière que je démasque mon jeu. Ce qu'elle dit à présent est complètement faux. « Est-ce que vous m'écoutez ?» demanda Mme Pennaire. Cette question tira Guitard de ses réflexions. « Je vous disais, continua Clotilde, qu'il n'y a qu'un enfant pour tenir grief de plaisanteries comme celle de l'autre jour. Comme vous, je sais, et mieux que vous, ce qu'est mon mari, et j'en souffre. » Cette dernière parole, plus encore que les précédentes, plongea Guitard dans l'étonnement. Il n'avait pas le souvenir exact de ce qui s'était passé l'autre jour, mais il savait très bien que le ton n'avait pas été tel qu'aujourd'hui Mme Pennaire put lui parler ainsi. À l'entendre, on eût dit qu'ils avaient été de grands amis, alors qu'il avait été traité en relation d'hôtel. Ce fait ne fit qu'accroître ses soupçons. Instinctivement, il regarda autour de lui pour voir s'il n'y avait pas d'auditeur à cette scène. Comme si elle eût deviné cette pensée, Clotilde lui dit « Nous sommes seuls, et croyez-moi si vous le voulez, j'en suis heureuse. Vous me connaissez mal, cher ami, si vous me soupçonnez de quoi que ce soit. » Ces derniers mots, comme les autres, semblèrent à Guitard destinés à cacher quelques traquenards. Échaudé, il était long à reprendre confiance. Pourtant, en écoutant parler Clotilde, il n'était plus lui-même. Il n'avait plus des pensées très nettes. Comme un homme à qui on annonce une nouvelle importante, tout ce qui faisait sa personne habituelle avait disparu pour laisser place à de la peur, à de l'inertie. « Je vous disais tout à l'heure, Guitard, que vous me connaissiez mal. C'est la vérité. Je vous ai donné l'impression d'être une femme susceptible d'aimer son mari, d'être sa complice. C'est vrai, mais c'était par amour-propre. Il en coûte toujours à une femme de mon âge de dire qu'elle n'est pas heureuse, car aussi tendre, aussi sympathique que puisse être le confident, elle se demande si la pitié ne l'emportera pas chez ce dernier sur ce qu'elle attend de toutes ses forces. » Ces mots avaient été prononcés avec une telle détresse dans la voix que Guitard en fut ébranlé. Pourtant, il ne put s'empêcher de demander « Mais comment, alors, avez-vous pu agir ainsi avec moi ?»«
Je ne sais pas, » répondit Mme Pennaire en portant une main à son front dans un geste d'impuissance.
Les réserves de Guitard n'étaient plus qu'apparentes. Au fond de son cœur, un immense cri de joie s'élevait. Brigitte avait disparu à tout jamais. Devant le bonheur qui se présentait à lui, plus rien n'existait. Même la certitude d'avoir été le jouet de cette femme s'estompait dans son allégresse. Il ne voulait plus y penser, il s'était trompé. Enfin, quelqu'un répondait à son besoin d'affection. Dans un élan, il porta ses mains sur celles de Clotilde. Elle les retira aussitôt.
« Non, non, Guitard, nous parlons !»
Car elle avait atteint cet âge où il faut d'abord avoir tout réglé avant de se permettre la moindre caresse. Guitard, qui avait atteint le même âge, le comprit et, sans être le moins du monde blessé dans son élan, continua « Je me suis trompé, cher ami. Je ne vous ai pas comprise. Vous étiez une énigme pour moi. Et ce soir, le hasard seul, m'a enfin permis de vous connaître. » Comme il venait de prononcer ces mots d'une voix émue, Clotilde se leva subitement, puis, comme elle regardait Guitard qui se levait à son tour, elle dit ces simples mots «
Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ?»
Guitard la regarda, étonné et interrogateur.
« Je suis trop nerveuse, » dit-elle pour expliquer ce cri.
« Trop nerveuse ?»«
Oui, mais ne parlons plus de tout cela, voulez-vous ? Allons voir nos amis. »
« Nous rencontrerons votre mari. »
Oh, cela ne fait rien !» Madame Penner, suivie de Guitard, fit quelques pas, puis, se retournant, regarda la mer toute couverte, semblait-il, d'écailles d'argent. Un murmure lointain venait jusqu'à nos deux personnages. C'était le murmure de la mer, d'une force de la nature, et pourtant, il venait à eux ainsi qu'un bruit humain. « Je regarde une dernière fois la mer, » dit Madame Penner, « avant de me replonger dans cela. » Et elle désigna les lumières que l'on apercevait à travers les feuillages, la façade éclatante de blancheur sous les projecteurs, enfin ce foyer de chaleur où, comme dans les rêves de feu, on sentait instinctivement que le centre de la vie se trouvait. Guitard voulut se mettre au diapason de cette sérénité, ce qui lui semblait devoir être dans son rôle d'amoureux, cela bien qu'il ne sentît absolument rien. « Là-bas, dit-il, est l'hypocrisie. Quel contraste !» Mais Clotilde était déjà regagnée par cela. Les deux amis venaient de se mêler à la foule des invités lorsqu'une voix les appela. C'était celle de M. Penner qui se trouvait avec Brigitte et Mme Beaufort. Guitard cacha son embarras. Clotilde poussa un cri joyeux. « Vous voyez, dit-elle, que j'ai plus de flair que vous. J'ai quand même trouvé notre ami. » Elle se tourna vers Guitard. « Nous vous cherchions partout. » Tout le monde se mit à rire, sauf Guitard. Sa situation était gênante. À tout ce monde rassemblé autour de lui, il sentait qu'il déplaisait pour une raison ou pour une autre. Quand il les rencontrait isolément, cela pouvait passer. Mais, ainsi groupés, il avait l'impression qu'ils pouvaient tous communiquer leurs raisons et finalement, après les avoir fondus en une, l'accabler. Madame Beaufort lui gardait certainement rancune d'avoir abandonné sa cour. M. Penner était jaloux de sa femme. Brigitte, conseillée par tous, ne voyait aucune raison particulière de prendre sa défense, et Morin, froissé dans ses prérogatives masculines, laissait les événements se succéder, sûr qu'il était que le temps parlerait pour lui. Pourtant, malgré cette sourde animosité, on lui manifestait de la cordialité. Tous avaient l'air de ne rien remarquer d'étrange dans son attitude. Il y avait cependant entre eux comme une entente. Ils s'approuvaient, s'interrogeaient pour chercher une confirmation à leurs paroles. Guitard en était un peu gêné, non parce qu'il lui était désagréable de trouver réunies les mêmes femmes à qui, séparément, il avait tenu des propos si bizarres, car de cela il se moquait, mais de sentir l'hostilité de ce groupe. D'autre part, une joie profonde était en lui. Madame Penner ne lui avait-elle pas témoigné une réelle affection ? Avec la même rapidité avec laquelle il était tombé amoureux de Brigitte, avec la même rapidité, il l'avait oubliée. Il avait suffi d'un moment passé auprès de Clotilde pour que, de nouveau, il fût conquis et oublia le reste. Pourtant, il était un détail qui choquait notre héros. Madame Penner était-elle partie à sa recherche sur les conseils de ce groupe ? Ou bien, subitement triste, avait-elle éprouvé le besoin de s'isoler et l'avait-elle alors rencontré par hasard? Il observa, avec l'espoir qu'elle le rassurerait par un regard. Mais déjà, elle ne se souciait plus de lui. Il profita d'un instant où l'attention de tous était distraite par une femme extraordinairement belle qui passait lentement près d'eux, absolument indifférente à l'admiration qu'elle soulevait, pour s'approcher de Clotilde. Mais à peine eut-il fait un pas que celle-ci s'écarta. Elle le fuyait. Elle regrettait son abandon de tout à l'heure. Au lieu de voir en cette attitude un caprice féminin, il en fut horriblement dépité. À nouveau, de mauvais sentiments l'envahirent. Non contente de s'être moquée de lui le jour où son mari lui avait fait des aveux, Clotilde, ce soir-là, avait fait naître en son cœur des espérances à seule fin de les tromper par la suite. À ce moment, il vit un sourire sur les lèvres de M. Penner. Il chercha à expliquer ce qui avait pu le provoquer. Tout le monde semblait préoccupé par la fête. Rien ne l'expliquait. Guitard ne répondit pas à ce sourire qui lui était adressé. Il jeta un coup d'œil sur Clotilde. Cette dernière prenait un vif plaisir à contempler la fête. De temps en temps, elle se penchait à l'oreille de son mari pour lui parler. Elle s'était ressaisie. Jamais elle n'avait paru si maîtresse de soi. Guitard en était abasourdi. Il ne savait plus quelle contenance adopter. En même temps qu'il était désireux d'interroger Clotilde, une voix lui conseillait la prudence. Mais un événement imprévu vint d'apporter un peu de clarté dans son esprit par l'entremise de M. Pennaire. « Il est toujours désagréable, dit ce dernier, de quitter la paix de la nuit pour la clarté aveuglante et artificielle du monde. » Guitard crut deviner une allusion à son entretien avec Clotilde. « Ce n'est tout de même pas possible, pensa-t-il, que cet homme ait dit cela par jalousie. Comment saurait-il ce qui s'est passé ?» Il y avait en effet quelque chose dans le visage de Pennaire qui montrait qu'il n'était pas jaloux, mais plutôt ironique. Et c'était cette ironie justement qui éveillait les soupçons de Guitard. D'autre part, Madame Beaufort observait, à peu de choses près, l'attitude de M. Pennaire. En l'espace d'un instant, il sembla à Guitard que des liens, autres que ceux qui apparaissaient aux yeux de tous, unissaient Madame Beaufort à Pennaire, que tout le monde le savait, et qu'au lieu de créer des complications, cela ne faisait qu'augmenter leur intimité. Il eut subitement l'impression que tout le monde voyait et savait des choses qu'il ignorait, que l'innocente Madame Thierbach elle-même en avait appris plus long dans les quelques jours qu'elle venait de passer à Nice que lui. Quant à M. Morin, il lui fit l'effet d'un homme qui, s'il n'agissait pas, s'il ne participait pas aux événements, admettait et couvrait tout de son indulgence et même de ses encouragements. « Nous avons passé un quart d'heure exquis, n'est-ce pas, Monsieur Guitard ?» dit Madame Pennaire en faisant allusion à leur rencontre sur la terrasse. « Nous n'en doutons pas, » fit le colonel avec un sourire entendu. « Si je ne vous avais pas rencontré, j'aurais pris plaisir également à m'égarer, » surenchérit Madame Beaufort. « Ne nous taquinez pas, chers amis, » dit Clotilde, à la manière d'une jeune mariée, blâmant les plaisanteries qu'on lui adresse. La confusion rougissait les joues de Guitard. Il était dans la situation désagréable de l'homme dont le complice se dérobe et qui reste seul avec ses responsabilités. Il se défendait avec maladresse, sans remarquer l'intérêt que lui portait Madame Thierbach, tellement son esprit était occupé par Clotilde et par tout ce qui concernait ses rapports avec elle. Brigitte Thierbach avait, sous ses apparences capricieuses, un grand cœur. Une certaine sensiblerie l'amenait à prendre toujours parti pour les plus faibles, pour ceux qui souffrent et dont on se moque. Élevée en pension, d'une beauté qui avait eu besoin de la maturité de son esprit pour être mise en valeur, elle avait, elle aussi, été une sorte de souffre-douleur dans sa jeunesse. Elle en avait gardé un tel souvenir qu'à présent, il était plus fort qu'elle de se ranger du côté des plus faibles. Pourtant, en cette soirée, elle n'osait le faire ouvertement. En même temps que son cœur l'attirait secrètement vers les malheureux, en même temps, une soif de plaisir, une fierté profonde, un amour démesuré de la jouissance l'amenaient à ne jamais montrer de tels sentiments. Elle les cachait profondément, et ce n'était que lorsqu'en les montrant, elle ne compromettait en rien ses appétits, qu'elle se laissait aller. Aussi, tout le temps que dura ce pénible entretien, elle se tut. Mais, profitant d'un moment où elle fut seule avec Guitard, elle lui sourit avec une gentillesse profonde, destinée à lui faire comprendre combien elle était étrangère à toutes ses mesquineries. Et elle le faisait avec d'autant plus de sincérité qu'elle voyait en Guitard de quoi satisfaire ses deux passions. Car c'était pour elle le comble de la chance quand elle pensait grouper sur le même homme et son désir de protection et celui d'être admirée. Guitard, à ses yeux, incarnait cet être. N'était-il pas malheureux ? À ce sourire, Guitard répondit par un autre sourire, mais forcé. Il se sentait coupable d'avoir délaissé cette jeune femme pour Madame Pennaire parce qu'il avait pensé avoir plus de chance de ce côté. Il avait l'impression que, comme ses amis, elle savait tout et de la voir lui sourire lui semblait, cette fois, un piège certain. Une foule sans cesse accrue les entourait. Au-dessus des habits, des toilettes de soirée, une brume lumineuse et rose flottait. Guitard commençait à se sentir envahi de méfiance. Cette femme allait-elle, elle aussi, recommencer ce qu'avait fait Madame Pennaire ? Et lui, brave garçon, allait-il encore être dupe pour devenir la risée de tout le monde après ? Non, une fois suffisait. Mais Madame Thierbach se faisait de plus en plus persuasive. « Cher Monsieur Guitard, dit-elle, je vois que vous ressemblez à mon mari. Vous n'êtes pas fait pour vous mêler au monde. » « Dès que cela vous arrive, vous n'en retirez que des ennuis. » Bien qu'il fût sensible à ce langage, Guitare ne voulait pas s'abandonner. Il avait été pris une fois, il ne voulait pas l'être une seconde. Madame Pennard ne lui avait-elle pas parlé avec la même sincérité? Le monde entier jouait la comédie. Il s'en était déjà aperçu depuis longtemps, mais jamais avec cette force. En ce jour, tout semblait ligué contre lui, et comme le joueur raisonnable qui, quand la chance tourne, ne s'obstine plus, il ne voulait pas croire aux nouvelles possibilités qui s'offraient à lui. Ce fut avec froideur qu'il répondit à Madame Thiernbach, se retenant même de ne pas lui reprocher d'agir comme les autres, avec hypocrisie. Mais Brigitte, comme la plupart des gens quand ils ont conscience de faire un effort pour être généreux, n'envisageait pas une seconde que cette mauvaise humeur était dirigée contre elle. Elle la mettait sur le compte des déceptions, des désillusions. « Mais vous semblez fâché, cher monsieur. Qu'avez-vous donc ?»« Rien, je n'ai rien, » répondit Guitare avec froideur. Cette réponse ne désarma pas cette bonne madame Thiernbach. Elle avait un trop grand cœur pour soupçonner un instant que Guitare s'imaginait qu'elle n'était pas sincère. Elle supposait que, comme tous les êtres sensibles, il était long à se livrer. Ce fut donc sans crainte d'être indiscrète qu'elle continua. « Je voudrais beaucoup me promener dans le parc. Voulez-vous m'accompagner, cher monsieur Guitare ?» Cette fois, il ne douta plus qu'un piège lui était tendu. N'y avait-il pas, en effet, quelque chose d'étrange dans ce désir de s'isoler avec lui? C'était à peu de choses près la même chose qui s'était produite avec Madame Palmer. On se moquait de lui au point de ne même plus varier les pièges, de ne même plus se donner la peine de les masquer. Mais, en de telles circonstances, Guitare adoptait une attitude commune à tout le monde, celle de vouloir jouer au plus malin. Il lui était agréable d'en remontrer à ses adversaires sur leur propre terrain. Cachant son courroux sous un sourire, il répondit « Mais avec le plus grand plaisir, cher ami !» L'un et l'autre s'engagèrent, en silence, à pas lents, dans une allée déserte. Guitare ruminait son attitude à venir. Il serait tout ce qu'il y a de plus aimable, tant qu'il n'y aurait rien de pas trop tendre dans ce que dirait Brigitte, mais dès qu'elle tenterait de le séduire, il jouerait la plus profonde stupéfaction, il se défendrait, et ce serait sa vengeance de blesser ainsi une femme dans son amour-propre au moment où elle s'offrirait. Les quelques paroles que nous avons dites sur Brigitte ne suffisent pas à la décrire, et il est nécessaire pour l'éclaircissement de ce qui va suivre d'ouvrir ici une parenthèse. Après une enfance triste passée dans une ville de Bavière, à soigner des frères espiègles et une mère infirme, Brigitte Lauber était tombée amoureuse du docteur Thiebart, qui soignait justement sa famille. C'était un homme doux, renfermé, qui avait imposé à la jeune fille par son savoir et sa maturité. Il n'avait pas tardé à s'apercevoir de l'amour dont il était l'objet, mais en homme honnête qu'il était, il avait faim de l'ignorer, tellement la différence d'âge lui semblait grande, et tellement il lui apparaissait d'un enfant d'envisager seulement une union semblable. Pourtant, un jour, il se trouva seul avec la jeune fille. Le trouble de cette dernière fut si grand qu'il ne put faire autrement que d'aborder ce sujet. Avec franchise, il la dissuada de l'aimer, lui montra tous les inconvénients d'un amour aussi mal assorti, lui dit, entre autres, qu'elle serait encore une jeune femme lorsqu'il serait un vieillard. Mais Brigitte, incapable d'envisager l'avenir, n'écouta même pas ses paroles et se laissa bercer par la voix. C'était pour elle une joie immense de voir cet homme qui était l'objet de la considération de toute sa famille, qui était vénéré dans toute l'Allemagne, lui parler de choses relatives seulement à eux deux, et ce seul fait l'éblouissait tellement qu'elle n'en vit même pas la raison. Finalement, le mariage se fit. Brigitte fut la plus heureuse des femmes. Mais passant de l'emprise d'une famille à celle d'un homme comme le docteur, ça avait été comme si elle avait échangé la tutelle d'une mère pour celle d'un père. Au lieu de devenir femme dans le mariage, elle resta jeune fille. Elle continua à s'habiller de la même façon qu'avant, à avoir les mêmes habitudes. Et il advint peu à peu ce qu'avait prévu le docteur Thiernbach. Ses yeux s'ouvrirent sur la vie. Elle remarqua que les femmes sortaient, commandaient, avaient des maris de leur âge, et, à son insu, le désir qu'il en fût de même pour elle s'éveilla dans son esprit. Mais elle le chassait chaque fois qu'elle s'en apercevait, ainsi que d'une chose répréhensible. Elle avait une conscience trop pure pour oublier que c'était elle qui avait voulu ce mariage, et elle trouvait injuste d'en rendre responsable son mari, qui n'avait pas manqué de lui faire observer ses dangers et qui n'avait cédé que sur la promesse d'être heureuse en sa compagnie. Elle cachait donc avec soin sa désillusion. Elle ne se l'avouait même pas, s'obligeant de toute sa puissance à être satisfaite de ce qu'elle avait elle-même choisi. Mais cet effort n'alla pas sans affaiblir sa santé. Peu à peu, elle devint de plus en plus débile. La lutte qu'elle livrait à elle-même en cachette, pour être heureuse malgré son cœur, la minait, si bien que son mari s'aperçut un jour qu'elle dépérissait. Il l'envoya pour 2 mois dans un sanatorium de la Forêt Noire, mais rien n'y fit. Ce fut alors qu'il songea à l'envoyer dans le midi de la France, car ce qui lui semblait devoir le mieux remonter sa femme, c'était les distractions. En arrivant à Nice, Brigitte eut soudain une frayeur plus grande encore que celle qu'elle ressentait perpétuellement aux côtés de son mari. Les jeunes hommes, la vie facile, les fleurs, la beauté du paysage, tout l'enivra, si bien qu'elle sentit, elle qui n'avait même pas d'expérience pour l'aider à se défendre, qu'elle était à la merci du premier beau garçon qui lui parlerait avec tendresse. Et cela, pour rien au monde, elle ne le voulait. Elle se serait plutôt donné la mort que de reparaître avec une faute sur la conscience devant celui qu'elle avait, pour ainsi dire, contraint à l'épouser. De toutes parts, on la sollicitait. Les amis même de son mari ne lui facilitaient-ils pas la faute? Madame Beaufort n'avait-elle pas ménagé exprès un entretien avec Morin? Brigitte sentait sa volonté faiblir. Aussi, en s'accrochant à Guitard, avait-elle ainsi songé inconsciemment à s'attacher un protecteur, un homme qui la défendrait, sans pour cela désirer quoi que ce fût en échange. Elle avait, d'autre part, l'habitude des hommes âgés. Elle savait s'intéresser à leurs maux physiques, elle savait les conseiller en médecine, elle savait ce dont ils ont besoin sans les fatiguer et être toujours d'humeur joyeuse en leur compagnie, malgré le frein qu'ils apportaient au plaisir. En demandant à Guitard de se promener avec elle, elle avait pensé à tout cela. Cet homme paisible n'était-il pas le compagnon qu'il lui fallait pour écarter d'elle toutes les tentations? Mais combien éloignée d'elle était Guitard? Elle le regardait avec un réel intérêt, une profonde compréhension, non de son caractère mais de son âge, et elle cherchait inconsciemment à le séduire pour faire de lui une sorte de tuteur, de spectateur de sa vie. « J'ai tellement entendu dire qu'il était agréable de se promener dans ce parc que j'ai voulu le faire. » Elle dévoilait ainsi, sans le savoir, qu'il avait été question de l'absence de Guitard et de Clotilde. Au lieu de voir en cet aveu une preuve de la naïveté de son interlocutrice, il y découvrit celle de son machiavélisme. « Évidemment, répondit-il, le parc est bien beau. » La peur d'être dupe une nouvelle fois le paralysait, l'empêchait de comprendre la vérité. Ce n'était plus à côté d'une jolie femme qu'il se trouvait, mais à côté d'une ennemie. Il en arrivait même à la trouver laide. Il se souvenait pourtant, à certains moments, combien il avait admiré. Il avait attendu ce jour avec impatience. Il avait été jusqu'à écrire à Winnie Albernarle pour la supplier de venir. Pourtant, il ne restait plus devant lui qu'un être qu'il soupçonnait de méchanceté. Aussi maladroit il était quand il espérait quelque chose, aussi buté il devenait quand il avait la certitude qu'il ne pouvait rien attendre de favorable. Il éprouvait même, jusqu'à présent, une profonde satisfaction. Un ami serait venu lui apporter les preuves de son erreur, qu'il eût été déçu de remplacer le bonheur certain d'en vouloir à quelqu'un par celui problématique de plaire. En ce moment, il était sûr de ce qu'il avait, et si on lui ôtait cela, il ne serait plus sûr de rien. Cet homme, à force de vie sédentaire sans joie, sans mouvement, sans amis, en était arrivé à apprécier autant un état d'esprit comme le sien que celui d'un homme qui aime. Ce qu'il désirait avant tout n'était pas tellement l'amour que quelque chose qui le tira de lui-même et de la contemplation de sa misérable destinée. Car à l'encontre de la plupart des hommes, la haine de quelqu'un, la pensée d'être dupe, n'allait pas jusqu'à l'amener à considérer sa vie avec tristesse. L'existence était bien assez noire. Aussi beaux avaient été les instants qu'il avait vécus en ce lieu avec Madame Penner, aussi beaux étaient ceux qu'il vivait à présent. Les uns comme les autres l'avaient tiré de lui-même. C'était au fond tout ce qu'il demandait à ses rapports avec le monde. C'était aussi la raison qui faisait qu'au lieu d'adopter l'attitude digne que ses déboires eussent dû lui dicter, il suivait sournoisement cette belle Madame Thiernard dans ses caprices. En arrivant près du banc où il avait parlé à Clotilde, il crut le comble de l'audace de proposer à Brigitte de s'y asseoir. Il éprouvait une jouissance profonde à paraître dupe alors qu'il ne l'était pas. Soutenu par sa haine, il éprouvait une grande joie à laisser croire à Madame Thiernard qu'il tombait dans le piège qu'il s'imaginait qu'elle avait dressé. Il voulait lui donner l'illusion complète de sa bonne foi pour savourer au fond de lui-même sa clairvoyance. De sa colère de tout à l'heure, il en était arrivé à cela. Ainsi, il se vengeait de Madame Penner et il était décidé en outre à ce que toute cette comédie qu'il jouait à présent ne passât pas inaperçue. Car d'être le seul témoin de son attitude rendait cette même attitude inutile. Il attendait la phrase, le mot, le geste qui montrerait d'un seul coup tout ce qu'il avait pensé, qui montrerait que, quoi que l'on en ait cru, il n'avait pas été dupe un instant. Il vivait pour cet instant. Avec d'autant plus d'intensité, il préparait cette victoire que cette dernière, si elle était gagnée, devait être la conclusion, non pas seulement de ce dernier entretien, mais de celui qui l'avait précédé. Mais aucun moment ne lui semblait encore favorable. Brigitte manifesta un certain plaisir à la proposition de Guitard de s'asseoir sur ce banc, plaisir qui parut à notre héros fin.
« C'est certainement un banc d'amoureux, ne croyez-vous pas, monsieur Guitard ?»«
Certainement. »«
Et je trouve très drôle que vous ayez pensé à le choisir. »
« Oh, si cela vous ennuie, nous pouvons aller ailleurs. » Guitard n'avait pu s'empêcher de prononcer ces mots sur un ton dur. Mais il se ressaisit aussitôt, de peur d'avoir l'air de ne pas être dupe.
« J'en connais un autre qui est encore plus à l'écart que celui-ci. »«
Je crois que celui-ci suffit, » dit Madame Thiernard, non pas qu'elle craignait quoi que ce fût, mais parce qu'il lui semblait inutile de marcher encore. » Dans la demi-obscurité qui les environnait, Guitard s'efforça de voir Brigitte. Il l'apercevait, pâle, à la clarté de la lune, et plus belle que jamais elle ne lui était apparue. Mais cette beauté lui était complètement indifférente, et comme il la regardait, il pensait « Ah, vous voulez vous moquer de moi? On va bien voir qui l'emportera !» Une idée traversa alors son cerveau. S'il lui faisait la cour, s'il profitait de cet instant serein pour lui faire croire qu'il était encore plus dupe qu'elle n'avait pu l'imaginer, combien grande serait sa vengeance lorsque, après lui avoir fait une vague déclaration, lorsqu'après lui avoir frôlé les mains, brusquement, il se lèverait pour la quitter en souriant et en lui disant « à une autre fois » ou quelque chose d'analogue. Ce serait magnifique. Ce serait bien plus fort que d'attendre bêtement une occasion au risque qu'elle ne se présente pas, ou même au risque de manquer de clarté. « Ne trouvez-vous pas, chère madame, que cette soirée est délicieuse ?» dit-il avec douceur, et en se servant à dessein des mêmes termes qu'il avait employés avec Madame Penner, à seule fin de laisser croire qu'il était bien ce que l'on pensait. « Ah » songeait-il, « on croit que je suis amoureux de toutes les femmes. Eh bien, je suis amoureux de toutes les femmes. »
« Mais certainement, monsieur Guitard, c'est une soirée comme nous n'en avons pas en Allemagne, une soirée si douce. On voudrait se trouver sur une barque et qu'elle aille à la dérive, loin, loin devant soi, sans savoir où elle s'arrêtera. »
Bien qu'il fût un peu surpris par ce romantisme, Guitard admit sur le champ que c'était de la comédie et en se haussant jusqu'à son niveau, il continua «
Et on voudrait qu'il y eût une douce brise venant de la terre et en apportant tous les parfums, une brise qui nous baignerait de sa douceur. »
Brigitte leva brusquement les yeux. Une seconde, elle avait eu l'impression que les paroles de Guitard étaient ironiques. Mais en voyant son visage grave, comme pénétré de ce qu'il venait de dire, elle fut rassurée. Pourtant, l'effet funeste avait été produit. Elle n'éprouvait plus aucun besoin à se laisser ainsi aller, cependant que Guitard crut habile de poursuivre. On traverserait ainsi des mers infinies, oubliant tout, heureux seulement de communier avec la nature de plus en plus frémissante. Cette fois, Brigitte eut conscience, non plus que Guitard se moquait d'elle, mais qu'il était un peu fou.
Une seule pensée était en son esprit, revenir à l'hôtel. Mais elle était si timide que jamais elle n'aurait osé se lever, couper la parole à un homme qui semblait si convaincu des âneries qu'il débitait sur un ton sentimental. Guitard, lui, ne se rendait pas compte du ridicule dont il se couvrait, convaincu qu'il disait ce qu'on attendait de lui et heureux à la pensée de se montrer tout à l'heure sous son vrai jour. « Oui, écoutez-moi, chère madame, je ne m'exprime peut-être pas avec toute la chaleur que je voudrais. Je ne vous montre peut-être pas tout ce qu'il y a de pur au fond de mon cœur, mais sachez pourtant que j'en ai le plus profond désir. Brigitte, écoutez-moi. » Madame Thiers-Barre eut un haut-le-corps qui échappa à son interlocuteur. Il tendit ses mains avec l'espoir de rencontrer celle de sa voisine. C'était le moment qu'il attendait pour changer brusquement d'attitude, pour se lever, pour dire « retournons » et pour prendre congé avec hauteur. Il tendit donc les mains vers Brigitte, qui, dans la demi-obscurité, ne les vit pas venir. Mais quand elle les sentit sur les siennes, elle poussa un léger cri de frayeur, se leva et, toute tremblante, dit « Il faut que nous retournions. Madame Beaufort nous attend et doit s'inquiéter. » Dérouté, Guitard resta un instant pantois. Il ne savait plus que faire. Il lui apparut qu'encore une fois, il se couvrirait de ridicule s'il ne montrait pas tout de suite ce qu'il avait décidé. Et bien qu'il fût en retard, bien qu'on pût croire à présent que c'était par dépit ou pour d'autres raisons encore, il voulut agir comme s'il n'avait pas été précédé. C'était plus fort que lui. Il se leva à son tour et dit « Mais oui, rentrons, j'allais justement vous le demander. » En cours de route, il ne prononça pas une parole, mais, arrivé devant l'hôtel, il s'inclina, en souriant, devant Madame Thiers-Barre et dit « À une autre fois, chère madame, excusez-moi de prendre congé de vous si brusquement, mais des amis m'attendent. »